Vous êtes toujours sur le studio Kalangou, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de 18h au micro Nefis Adam Sirfo. Voyons tout d'abord les titres de ce journal. Des parlementaires allemands sont depuis ce matin à Agadez en visite de travail. Une visite qui leur a notamment permis d'échanger avec les migrants du centre de transit de l'Organisation internationale des migrations OIM d'Agadez. Du cinéma dans ce journal avec les projections de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma FESPACO qui se poursuit à Ouagadougou. Pour finir, la communauté chrétienne observe depuis hier le carême. On en parle dans la partie magazine de ce soir. Un groupe de parlementaires allemands est depuis ce matin en visite de travail à Agadez. Les parlementaires ont d'abord rencontré les autorités locales avant de se rendre au centre de transit de l'Organisation internationale de la migration OIM pour rencontrer les migrants avec lesquels ils ont discuté de leurs préoccupations. Écoutons les explications de Uwe Kekeridze, membre du Parlement allemand de Budentesk, au micro de notre correspondant Moussa Maman.
Nous sommes arrivés ce matin à Agadez, où nous avons d'abord rencontré le gouverneur de la région, puis le vice-président du conseil régional, ainsi que le maire de la ville d'Agadez. Ensuite, nous sommes allés au centre OIM, le centre pour la migration, où nous avons eu la possibilité d'entrer en dialogue avec de nombreuses jeunes personnes qui elles-mêmes ont vécu de dures souffrances et qui sont maintenant revenues à Agadez en espérant retourner chez elles. Nous avons entendu des destins choquant. Ils nous ont raconté en effet comment ils avaient été traités et c'est important qu'ils nous le disent pour qu'on puisse faire remonter cette information au Parlement allemand. Ils nous ont parlé de torture, ils nous ont parlé de viol, pas seulement les femmes qui ont été violées mais aussi de jeunes hommes. Ils nous ont parlé de travail forcé, ils nous ont parlé d'emprisonnement contre leur volonté, en Libye notamment, et ce n'est que après avoir versé des sommes d'argent qu'ils demandaient à leur famille qu'ils ont pu être libérés.
Nous restons toujours à Agadez. Avant-hier, le 28 février, c'était le dernier délai accordé aux orpailleurs et commerçants du site aurifère de Diado pour quitter les lieux. Des milliers de personnes convergent vers Agadez et se retrouvent dans une situation critique. Suivez ce reportage de Moussa Maman.
Depuis la mission menée par les ministres de Mines et les autorités régionales d'Agadez au Jado la semaine passée pour annoncer sa fermeture, le site aurifère de Jado est en train de se vider. Des dizaines de camions transportant chacun plus de 300 personnes sont entrés dans la ville d'Agadez. Les personnes ainsi déplacées se trouvent dans une situation difficile. On les écoute. Il y a que des problèmes. D'autres ont eu des fractures, d'autres font la mendicité. Même la farine de manioc, on n'en trouve pas. C'est un problème. Et cette ville, il y a plus de 1000 personnes qui ont été abandonnées sans pitié. On a pris des gens de Jado et amené ici dans cette ville sans rien. Un gaillard de 20 ans fait la mendicité. Ça, c'est vraiment honteux pour notre pays. On nous a embarqué soi-disant qu'on va nous aider et acheminer dans nos familles respectives. Là-bas, on est même enregistré. Et maintenant, on nous a abandonnés sans rien, sans manger, sans boire. Maintenant, ça fait 3 jours qu'on est ici abandonné. Les gens ne font que partir en ville mendier. Le gouverneur d'Agadez, Sadou Soloké, explique que la fermeture du site aurifère de Jado n'est que temporaire pour permettre sa réorganisation.
Il s'agit d'un déguerpissement qui va déboucher sur une réforme et on va réadmettre ceux des orpailleurs qui seront habilités à s'installer en tant qu'orpailleurs. Donc ils vont remplir les conditions d'orpaillage parce que actuellement, ce qui se fait, c'est que la plupart, sinon tous, personne n'a une autorisation pour mener ces activités-là. Donc on veut mettre de l'ordre en réalité.
En attendant, la réouverture de ce site aurifère de Jado, dont la date n'a toujours pas été décidée, des mesures ont été prises par la commune d'Agadez pour sécuriser la ville du banditisme et du vol. Moussa Maman, Agadez, Studio Kalangou.
Nous restons toujours dans cette région d'Agadez avec la ville minière d'Arlit qui bénéficie désormais de son propre château d'eau potable d'une capacité de 1000 m3 pour une population de plus de 100 000 habitants. Érigée en sous-préfecture en 1969, la ville ne possédait jusqu'alors aucune infrastructure d'alimentation en eau potable construite par l'État. Aujourd'hui, ces choses faites, les travaux de construction du château d'eau sont terminés. Le maire de la ville, Mawli Abdrahman, explique sa satisfaction.
Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir montré la fin de ce calvaire de pénurie d'eau dans la ville d'Arlit avec la finition des travaux de construction de ce château d'eau. À Niamey, la SPEN s'attelle activement aux préparatifs de la cérémonie du lancement officiel de l'ouverture de ce château. Ce château d'eau potable de la ville d'Arlit reste historique car c'est le premier château que connaît la ville depuis 42 ans. Bientôt, nous allons goûter à l'eau de notre propre château que l'État a construit pour la population d'Arlit. C'était un calvaire que l'État reconnaît, car nous l'avons plusieurs fois notifié pour qu'une solution soit trouvée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Dans quelques jours, plaise à Dieu, nous sommes sur la voie d'avoir de l'eau potable.
Vous venez là d'entendre le maire de la ville d'Arlit, Mawli Abdrahman, qui était au micro de nos confrères de la radio Kawsen FM, qui est une radio partenaire du studio Kalangou. Les manifestations de la troisième édition du Salon d'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger se poursuivent activement au palais du 29 juillet de Niamey. Beaucoup de femmes exploitantes exposent leurs produits fabriqués à base de céréales. Notre reporter Soumane Amadou a rencontré Mme Boubacar Hadiza Tchousso. Elle est présidente de l'Union Potale de Torodi spécialisée dans la fabrication du Nyeri. On l'écoute.
Ce nyeri, on a transformé le niébé et le riz. Nyé là, c'est le niébé, riz là, c'est riz. Nous utilisons l'eau de la rivière du Gorubi ou les mares. C'est avec ces mares là que nous produisons du riz. Donc c'est les riz hors aménagement que nous utilisons. Tous ces produits là que vous voyez, c'est localement. Les matières premières, nous les avons. Et nous travaillons physiquement. Tout est artisanal. Parce que l'unité de transformation, il nous faut au moins qu'il y ait des séchoirs, il nous faut de l'électricité. Tout ça là, ça nous manque. Il faut un moulin. On est obligé de se déplacer à 2 km du village pour chercher le moulin. Nous utilisons des panneaux solaires qui ne nous suffisent pas. Donc on est obligé de faire le séchage par le soleil. J'ai vu beaucoup de choses que je n'ai jamais vues. Moi, si je profite pour demander pour que je puisse faire d'autres transformations.
Propos recueillis par Soumana Amadou. Et puis ce fait divers, une femme âgée de 42 ans, mariée, divorcée et mère de deux enfants, a été retrouvée morte dans sa chambre mardi dernier. Selon le frère cadet de la femme, elle aurait été victime de son fils selon les premières conclusions de l'enquête de la police judiciaire. Actuellement, l'enquête continue et le jeune homme a été placé en garde à vue. Témoignage du frère cadet au micro de Adama Dawaki.
Za dimanche au kiné, ils ont eu bonnes nouvelles.
Depuis le dimanche que son enfant nous a annoncé que trois femmes l'ont enlevé, nous sommes mis à sa recherche. Le lundi, nous sommes allés au commissariat de la francophonie pour déclarer sa disparition. Ils nous ont donné des copies que nous avons déposées au commissariat central, à la police judiciaire et au service des passeports. Le mardi, la famille a décidé de défoncer la porte pour accéder à sa chambre. Moi, je venais même du groupe Dunia avec une équipe de reportage par rapport à sa disparition quand mes frères ont découvert son cadavre dans la chambre. Nous n'avons pas vu des traces de poignard, mais son nez et sa bouche saignent. Nous avons aussitôt prévenu la police qui est arrivée sur les lieux pour commencer ses investigations. Ils nous ont tous amenés à la police judiciaire pour enregistrer nos dépositions sur ce qui s'est passé du dimanche à la découverte de son cadavre. La police soupçonne son fils d'être l'auteur du crime. C'est pourquoi il est présentement en garde à vue.
Ça dimanche au Kalki di Buka. Actuellement, police isogani seka ngitkine gai.
Culture cinéma, la 25e édition du Festival panafricain du cinéma FESPACO se poursuit à Ouagadougou. Deux films nigériens sous les cinq ont été déjà projetés, Des loups de Souleymane Maman et L'arbre sans fruit d'Eshama Kikidi, respectivement en compétition dans les catégories séries, films et séries et films à documentaire. Le point depuis Ouagadougou avec Arimi Abachari, notre correspondant particulier, joint par Rahil Toussoumana.
Mardi, un des films très attendus du public nigérien, à savoir L'arbre sans fruits de Aïcha Maki, a été projeté pour la première fois au ciné Nerwaya. Le ciné Nerwaya a affiché complet. À la fin, les applaudissements ont duré au moins 3 minutes. Aujourd'hui, nous avons déjà suivi quelques films, mais nous attendons de voir aussi Zinaria de Ramatou Keita du Niger. D'autres activités en marge des projections se poursuivent. C'est le cas du Mika, le marché international du film africain, qui a ouvert ses portes surtout lundi, mais un peu de déception pour tous ceux qui visitent ce marché, parce que ça se limite à quelques stands. Bon, beaucoup de stands, très bien décorés. On peut, oui, voir, prendre des prospectus, prendre de l'information sur ceux qui ont exposé, mais très rare de choses à vendre, donc c'est cela le problème. Mais bon, je crois que ce n'est que le balbutiement pour l'instant d'un marché international de films.
Volet culture toujours, vernissage de l'exposition de peinture et sculpture perdue et retrouvée à Niamey mardi dernier par deux artistes américaines au Centre culturel américain CCA. Une exposition qui durera jusqu'au 7 mars 2017 et qui a attiré un nombreux public parmi lesquels les artistes peintres du Niger. Le reportage de Diallo Maria Makenda.
Yongyi Chang et Kathleen Stafford sont deux peintres américaines qui vivent à Niamey depuis un an. Passionnées et professionnelles, elles utilisent leur temps libre pour peindre le quotidien des Niamayens. Une façon, selon elles, de faire ressortir la beauté des choses ordinaires qu'on n'a pas le temps d'apprécier. Yongyi Chang, avec son intérêt pour la simplicité élémentaire et la nature, trouve l'inspiration autour d'elle. Les dunes de sable sont un endroit qu'elle visite dans les moments de solitude.
Comme vous le voyez, il y a un arbre sur ce tableau et de l'autre côté, il y a des dunes de sable. Donc, l'arbre que vous voyez, ça représente ma personne et la peur qui me tenaille, qui m'empêche d'avancer. Je voudrais aller vers les dunes de sable, mais il n'y a pas moyen. Vous pouvez comprendre pour quelle raison.
Kathleen Stafford, elle par contre, adore peindre les femmes dans leurs tâches quotidiennes. Ces femmes qui se tuent à la tâche à longueur de journée pour leur famille, dit-elle, sont admirables.
On voudrait le meilleur monde pour son enfant, des choses comme ça. Elle est madame qui doit faire beaucoup de travail ici en même temps. Elle porte les enfants qui sont proches de leur cœur et aussi qu'elle travaille tous les jours en même temps et cherche d'être, de faire le mieux qu'elle peut faire.
Marie Kaziende, l'une des premières femmes peintres nigérienne, apprécie les talents de Yongyi Chang et de Kathleen Stafford. Toutefois, elle regrette que les Nigériens ne s'intéressent pas beaucoup à la peinture.
Aujourd'hui, jusqu'à
place à présent à la partie magazine de cette édition. La communauté chrétienne observe depuis hier le carême. Ainsi, pendant 40 jours, les fidèles vont multiplier les actes d'adoration envers Dieu. À la fin, ce sera la fête de Pâques. Hier, les fidèles étaient nombreux à la cathédrale de Zongo pour marquer le début du carême 2017. Parmi eux, le curé mon père Jean-Baptiste Kafando qui explique comment est pratiqué le carême.
Le carême veut dire 40. Avant de commencer sa mission, Jésus a prié 40 jours et 40 nuits pour se préparer. Donc, il y en a qui peuvent dire, bon, durant tout le temps de carême, nous nous préparons. Nous mangeons 3 fois par jour, mais nous ne mangeons pas de viande. Et nous mettons, par exemple, 2000 francs par jour pour la viande, on économise 7000. En vue d'aider les pauvres. Il y en a qui peuvent dire, moi à midi, je ne mangerai pas, je prendrai une demi-baguette par jour. C'est aussi ne pas critiquer, ne pas insulter, ne pas parler mal des autres, ne pas dire ce qu'on n'a jamais vu, ne pas mentir. Tout ça fait partie du jeûne. Voilà d'ailleurs pourquoi on dit, se connecter à Dieu. Nous avons toujours besoin de nous connecter avec lui. Nous avons toujours besoin de partager. Donc, maintenant, même si ce n'est plus intense de ces choses, c'est pas pour autant. Donc, ça y est, on arrête. Non, on continue. Et ce qu'on a appris après 40 jours, on doit poursuivre.
Cet acte d'adoration est aussi pratiqué par la communauté musulmane à un moment de l'année. Oustaz Haladou Yahya explique les similitudes qu'il y a entre le carême chrétien et musulman.
Le jeûne musulman, c'est un des 5 piliers de l'islam qui vise la purification de l'homme, de la société, des relations sociales. Il consiste à observer l'abstinence, cesser de manger et de boire, et des relations charnelles de l'œuvre au coucher du soleil, l'heure de rupture. prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, en jeûnant donc, on économise et on permet à l'organisme de souffler de l'extrême digestion ou de la surcharge. Le jeûne peut se présenter comme un enseignant qui nous enseigne les comportements sociaux nobles, l'esprit de partage. La classe des riches peut s'approcher de celle des pauvres. De cette façon, avec l'assistance de Dieu, il aura une santé dans la vie sociale, dans les interactions sociales et même dans les transactions matérielles. Il est recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'éviter les querelles vaines et les paroles obscènes, aussi de ne pas répondre aux provocations. Donc les jeunes nous enseignent aussi la prévention des conflits.
C'est avec ces propos recueillis par Habibou Garba que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.